à bas l'impérialisme, à bas le néocolonialisme. Victoire éternelle aux peuples d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie qui luttent.
Mort à la France-Afrique. J'ai dit mort à la France-Afrique.
La matinale décoloniale, une émission critique de la France-Afrique.
Sur Radio Campus Grenoble.
90.8.
Y'en a marre, c'est du racisme. Y'en a marre, en 7 ans. Y'en a marre, les lois racistes. Y'en a marre, les lois fascistes. Y'en a marre.
Chaque mois, de l'actu,
de l'histoire,
des actions,
des luttes
et du bon son.
France, déguisement du franc CFA, fausse coopération.
France, dégage.
Soutien aux dictatures, massacre et pillage.
France, dégage.
La matinale décoloniale.
Sur Campus Grenoble 90.8.
Un vendredi par mois, de 11h à midi.
Pour en finir avec l'Empire et toutes les colonies.
Bonjour.
Et bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour. Donc c'est la matinale décoloniale qui débute. On va commencer par un petit quiz pour vous mettre un petit peu en jambe.
Ouais.
Est-ce que vous êtes toutes prêtes?
Vas-y, on a nos buzzers.
Vous avez les mains sur
ouais,
les buzzers,
ouais. Ouais, on est au taquet.
Du 15 au 17 mars 2022, selon vous, où avait-on le plus de chances de trouver, des substances radioactives de type césium-137, autour de Grenoble, hein, je n'ai pas précisé. Oh. Alors attendez, c'est un QCM, je vous fais des propositions.
Merci, c'est gentil.
Réponse A, au sommet du Mouchrot, l'un des points culminants du Vercors. Réponse B, dans l'eau du Drac, là où le réacteur de recherche nucléaire de la presqu'île de Grenoble rejette ses eaux usées. Réponse C, à la ferme au crocodile de Pierre Latte, dont l'eau est chauffée par la centrale nucléaire du Tricastin. Et réponse D, à l'arrivée du téléphérique de la Bastille sur les contreforts de la Chartreuse, que l'entreprise Vika de ciment a transformé en véritable gruyère.
Alors, ah là là. La D, moi je dirais.
La B, c'était quoi déjà?
Dans l'eau du Drac, à la sortie de la petite centrale nucléaire pour la ville.
Ouais, moi je vote C, voilà.
Moi je vote Bastille.
Bastille.
Ouais, Drac, j'aurais dit. Ouais.
Drac aussi.
Dit à côté de Grenoble. Donc
c'est alors, la réponse, c'est la A et la D.
J'ai gagné.
Je ne sais pas si c'est scientifiquement prouvé par rapport à l'eau. Je ne sais pas ce que l'eau contient vraiment, l'eau du Drac et l'eau de la ferme au crocodile, mais je n'ai pas creusé. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à la réponse A, le sommet du Mouchrot, et à la réponse D, la Bastille, du 15 au 17 mars 2022, on était dans un de ces épisodes de vent du Sahara, quand le ciel est un peu jaune et brumeux. Et dans ces cas-là, en fait, on a le plaisir de respirer du césium-137, en proportion certes moins forte que lors des accidents de Tchernobyl ou de Fukushima, mais quand même, en fait, ces tempêtes de sable nous ramènent du sable du Sahara, et ce sable est chargé d'éléments radioactifs qui proviennent des essais nucléaires français.
Et ouais.
Okay.
Voilà, c'était la petite intro. Merci.
Nous devons renforcer notre dissuasion nucléaire face à la combinaison des menaces avec la mise en place progressive de ce que j'appellerai une dissuasion avancée. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait. Un seul de nos sous-marins, tel que celui derrière moi, emporte avec lui une puissance de frappe qui équivaut à la somme de toutes les bombes tombées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est près de 1000 fois la puissance des premières bombes nucléaires. C'est donc un discours de puissance assumé au service de la paix que je viens vous tenir aujourd'hui. Pour être libre donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. J'ai ordonné d'augmenter le nombre de têtes nucléaires de notre arsenal.
Et
Et c'est par cet extrait de l'horrible discours du président le 2 mars dernier que nous entamons cette matinale décoloniale. Donc Macron se vante d'augmenter les têtes nucléaires, d'avoir de quoi dissuader les agressions d'autres pays et comble de l'ironie quand même de servir la paix par la menace. De notre côté, nous allons, à rebours de l'histoire et des discours étatiques, revenir sur les essais nucléaires français dans le Sahara et dans la Polynésie française. Ces 210 essais nucléaires qui ont permis à la France la fameuse dissuasion dont parle Macron ont été responsables d'un désastre tant humain qu'environnemental. La victoire militaire de la France de se doter de l'arme nucléaire est chargée des retombées radioactives sur les populations du Sahara et de Polynésie française et de leurs terres. Elle est chargée également des déchets radioactifs enterrés à la va-vite dans le désert ou coulés dans les atolls. Et cette victoire est bien sûr chargée du mensonge d'État. De 1960 à 1996, les différents chefs d'État, les ministres et l'armée n'ont pas cessé de mentir sur les dangers que représentaient ces essais atomiques. Mais cela n'a pas empêché les mobilisations et les luttes contre les essais de s'organiser pendant cette trentaine d'années. Alors déjà, comment et quand cette histoire d'essais nucléaires a commencé ?
Eh ben, je la fais commencer en 1939, quand le président des États-Unis, Roosevelt, lance le projet Manhattan. Un projet qui réunit la crème de la crème des scientifiques américains, auxquels se sont ajoutés quelques scientifiques européens qui étaient réfugiés, on était dans la Deuxième Guerre mondiale, hein, qui étaient réfugiés aux États-Unis pour travailler sur le nucléaire. En 1941, c'est l'attaque de Pearl Harbor, qui est menée par l'armée japonaise sur une base militaire américaine à Hawaï. Et donc, les États-Unis entrent officiellement en guerre et le programme nucléaire s'accélère. Il va prendre une ampleur gigantesque, tout en restant en secret, jusqu'au premier essai de la bombe nucléaire, le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique. Cet essai ayant été jugé concluant, trois semaines plus tard, une bombe nucléaire est larguée sur Hiroshima, tuant instantanément 70 000 personnes, suivie trois jours plus tard par la bombe lâchée sur Nagasaki, qui mettra fin à la Deuxième Guerre mondiale. En fait, on estime aujourd'hui que cette histoire que le nucléaire a mis fin à la guerre mondiale, ça a peut-être accéléré les choses, mais que la guerre était en fait déjà gagnée par les Américains. Dès la sortie de la guerre, donc soviétiques et américains vont diviser le monde en deux blocs, et chacun poursuit sa course dans l'armement atomique, en s'espionnant mutuellement. Dès 1942, Staline avait également lancé un programme qui visait à orienter les recherches scientifiques sur le nucléaire pour obtenir l'arme nucléaire. À partir de 1949, l'URSS procède également à des essais nucléaires, et globalement, que ce soit les Américains ou les Soviétiques, protéger la population environnante reste tout à fait secondaire. Donc après avoir fait un essai nucléaire sur leur sol, les Américains vont ensuite faire leurs essais dans leurs îles du Pacifique, et les Soviétiques dans les déserts du Kazakhstan ou dans une province proche de l'Arctique. Les Anglais vont, avec l'aide des Américains, se mettre dans la course aussi et procéder à des essais nucléaires qu'ils feront, eux, en Australie et dans leurs îles coloniales du Pacifique. On entre donc, à l'échelle mondiale, dans l'âge atomique, avec une nouvelle doctrine de l'ordre mondial, puisque les puissances atomiques ont la capacité de réduire à néant des pays entiers. Le principe est celui de la dissuasion, un genre d'équilibre de la terreur. Cette notion de dissuasion nucléaire, donne donc des beaux oxymores comme
« une arme pour la paix ».
Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout en acceptant la protection des ex-alliés américains, Charles de Gaulle lance la France sur le chemin de l'armement atomique, avec cette idée de ne pas dépendre des Américains pour assurer notre défense. Il fait ce choix contre l'ensemble des partis politiques de l'époque en France, hormis le sien qui avait sans doute pas trop le choix. On l'écoute.
Nous sommes à l'ère atomique et nous sommes un pays qui peut être détruit à tout instant, à moins que l'agresseur ne soit détourné de l'attaque par la certitude qu'il subira lui aussi des destructions épouvantables. C'est ça qui est le principe auquel nous nous attachons. Je peux dire seulement que la force atomique française, dès l'origine de son organisation, aura la sombre et terrible capacité de détruire en quelques instants des millions et des millions d'hommes. Ce fait ne peut pas manquer d'influer au moins quelque peu sur les intentions de tels agresseurs éventuels.
Eh ben, ça fait froid dans le dos. On va maintenant se poser la question du lien entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Parce qu'on a l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a été créée en 1957 en réponse aux inquiétudes vives qui étaient soulevées par la découverte et les diverses utilisations de la technologie nucléaire. Elle se fait connaître en tant qu'organisme mondial de...
l'atome pour la paix et le développement.
Donc au sein des Nations Unies. Et elle est en collaboration avec ses États membres et ses nombreux partenaires dans le monde. Elle va œuvrer, selon elle,
à la promotion de l'utilisation sûre, sécurisée et pacifique des technologies nucléaires.
En 2005, elle reçoit même le prix Nobel de la paix. Donc si on peut promouvoir une utilisation sûre et sécurisée du nucléaire, c'est donc qu'il existerait un nucléaire qui ne soit pas dangereux ? Eh bien, malheureusement, ça reste à prouver. D'ailleurs, il y a quelques éléments qui laissent plutôt à penser que non. Déjà, on peut rappeler, parce qu'on est en mars 2026, et que là, c'est le 15e anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon. En France, régulièrement, l'autorité de sûreté nucléaire alerte sur l'autorité de sûreté nucléaire, c'est celle qui contrôle au nom de l'État les installations nucléaires civiles en France. Et elle alerte régulièrement sur le fait qu'on ne peut pas garantir qu'un accident nucléaire majeur ne survienne en France. En Ukraine, on continue de craindre un accident à la centrale nucléaire de Zaporijja, qui maintenant est contrôlée par la Russie. En Iran, actuellement, Israël vise délibérément des sites nucléaires. Bref, le nucléaire civil, il fait lui aussi courir un énorme risque aux populations. Et d'ailleurs, est-il vraiment possible de le distinguer du nucléaire militaire ? En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que les entreprises et les personnes qui travaillent dans le nucléaire civil et militaire sont très très en lien, que ce soit pour l'approvisionnement en uranium, pour la recherche, pour la gestion des centrales et pour la gestion des déchets.
C'est l'infaillibilité totale. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit. Un câble, ça peut casser. Et par accident, une voiture peut déraper. Par accident, un incendie se déclarer. Pas aux centrales, c'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Puisqu'on te le dit. Toute la journée, c'est ce qu'on se tue à te péter à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit. Un tunnel peut s'effondrer, une piste s'écrouler, un ingénieur mal calculé. Une plateforme polluée et goudronner un océan. Le Titanic a coulé, le Tupolev est tombé et le Zeppelin a brûlé. Oui, mais les centrales, c'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Le piscotolip, 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 piscotolip. toute la journée, c'est sur ce tu as tout fêté à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit.
On écoute l'explosion jusqu'au bout. On écoutait la chanson Les Centrales de Castellémis qui nous a redonné un peu confiance dans le nucléaire. On est bien sûr sur Campus Grenoble 90.8 dans la matinale décoloniale.
Si je peux préciser qu'elle date de 82 et qu'elle est quand même malheureusement terriblement d'actualité, quoi. Si on revient sur l'exemple français, à sa création en 45, le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, travaille aussi bien sur les applications civiles que militaires, malgré le fait qu'il ait deux directions bien distinctes, hein, une direction des applications militaires et une direction civile. Et ben, en fait, on peut observer qu'il y a des échanges fréquents de personnel entre ces deux directions, dans les deux sens d'ailleurs, et des laboratoires ou installations de centres civils travaillent aussi sur des applications militaires. Du côté militaire, les liens étroits entre civils et militaires sont non seulement reconnus, mais souhaités. D'ailleurs, on va écouter une citation d'un des pères de la bombe française, le général Ayret.
J'avais compris que l'un des dangers les plus grands qui menaçaient le programme militaire était l'opposition que j'ai souvent signalée de l'atome militaire à l'atome civil. Nous avions déjà réagi en cherchant, chaque fois que c'était possible, à proposer une promotion parallèle et coordonnée de programmes civils et militaires, s'appuyant l'un sur l'autre. J'ai toujours veillé à ce que le nucléaire civil et le nucléaire militaire aillent de pair. Ce serait la mort du deuxième si le premier disparaissait.
Voilà, donc c'est donc très clair, pas de nucléaire militaire sans nucléaire civil. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Frédéric Joliot-Curie, qui a dirigé le pôle scientifique du CEA à ses débuts, avec l'objectif de renouveler les sources d'énergie, eh ben, il en a vite été écarté parce qu'il avait des opinions qui étaient trop nettement pacifiques et son militantisme au parti communiste convenait pas. Donc l'énergie atomique a toujours eu dans l'histoire française un volet militaire qui contribue à ce que la France garde une place sur la scène internationale.
Ce matin à 7h, un champignon comme celui-ci a marqué en plein cœur du Sahara l'accession de la France à la puissance atomique. Cela s'est passé au centre d'essai de Reagan, à quelques 1200 km au sud d'Alger et à 1000 km au sud-est de Casablanca. C'est la 211e expérimentation du genre, la première ayant eu lieu le 16 juillet 1945 à Alamo Gordo, aux États-Unis, moins d'un mois avant la destruction d'Hiroshima et de Nagasaki, qui mit fin à la guerre contre le Japon. L'Union soviétique, à son tour, réussit sa première explosion le 14 juillet 1949. Et puis, ce furent les Britanniques qui, le 3 octobre 1952, expérimentèrent l'arme atomique dans les îles Montebello, au large de l'Australie. Il y eut au total 210 expériences de ce genre, 134 américaines, 55 soviétiques, 21 britanniques. L'Organisation des Nations Unies ne s'en émut guère. Elle ne commença en fait à s'inquiéter que lorsque la France fit connaître son intention de suivre le chemin des trois autres grands. L'Assemblée générale de novembre dernier condamna les projets français malgré les assurances données par notre délégué, M. Jules Moc.
Pourquoi, nous demande-t-on, préparer cette explosion au Sahara? Des raisons techniques commandaient sa décision. Le Sahara se prête mieux que toute autre région à cette expérimentation parce que le site choisi est à la fois désert et beaucoup plus proche que les atolls des antipodes de la France.
Voilà, donc c'était un extrait des archives de l'INA de 1960. Ce qu'on constate, c'est qu'à la fois le journaliste et le ministre qui s'expriment sont quand même assez vexés que la France se voit pointer du doigt pour faire des essais nucléaires dans les années 60. Donc ce premier essai, il se passe en pleine guerre d'Algérie, à Reagan, l'Algérie étant à l'époque, on le rappelle quand même, un département français. Et à propos de ce premier essai français, on a su tout récemment, dans les années 2000, qu'un jour après l'explosion, le nuage radioactif avait atteint Taman Rasset, dans le sud de l'Algérie, mais aussi N'Djamena et Bangui, en Centrafrique. Puis, le nuage est remonté vers l'Afrique de l'Ouest pour atteindre Bamako, 4 jours après l'explosion. Et 2 semaines après, toujours chargé de radioactivité, le nuage a atteint les côtes méditerranéennes de l'Espagne et de la Sicile. En 1962, 2 ans plus tard, ce sont les accords d'Évian donc, qui mettent fin à la colonisation française en Algérie. Et l'article 4 de l'annexe militaire de ces accords autorise explicitement l'usage temporaire pour 5 ans de ces sites par la France pour poursuivre ses essais. Annexe-là ne va pas du tout prévoir de dispositif de démantèlement, de contrôle radiologique, ni de suivi des populations. Et c'est une situation unique où une puissance coloniale procède à des expérimentations nucléaires sur le sol d'un État nouvellement indépendant. Et bah, fatalement, ça laisse une empreinte durable dans l'histoire franco-algérienne. Après l'indépendance de l'Algérie, donc, suivant ces accords, la France continue ses essais, mais cette fois-ci de manière souterraine, à Inéker, dans une autre région du Sahara. 13 essais seront faits entre 1961 et 1966. Plusieurs essais ont provoqué des expositions importantes à la radioactivité, de façon accidentelle ou non. C'est le cas de Béryl en 1962, c'est le nom de l'essai. Lors de cette explosion souterraine, un nuage radioactif va s'échapper de la galerie qui avait été mal colmatée. Les militaires français, les techniciens, les journalistes, mais aussi le ministre des Armées, Pierre Messmer, dont on avait parlé dans le portrait d'ordure de l'émission sur le Cameroun, qui étaient présents sur place, sont contaminés. Les programmes Pollen et Ogias, qui sont aussi menés entre 1961 et 1963, ont consisté à projeter des substances radioactives en plein air pour tester un petit peu les effets que ça avait. Dans le cas de Gerboise verte, près de 200 soldats ont été délibérément envoyés à proximité immédiate du point zéro, quelques minutes après l'explosion, afin d'observer leur comportement en ambiance radioactive.
Dès 1958, des repères sont pris en Polynésie française, à plus de 15 000 km de Paris, pour prendre la succession des sites du Sahara algérien et ainsi poursuivre les essais nucléaires. Ainsi, en 1964, les atolls de Mururoa et Fangatofa sont cédés gratuitement à l'État français par l'Assemblée territoriale, mais sans vote de celle-ci. La cession est assortie d'une clause stipulant qu'en cas d'arrêt des essais nucléaires, les atolls seraient restitués dans l'État où ils se trouveront à cette époque, sans dédommagement ni réparation d'aucune sorte de la part de l'État.
Mururoa, 5h34, le 2 juillet 1966. Visible, 500 km à la ronde, une gigantesque boule de feu explose, déchirant à tout jamais la tranquille sérénité de cette région de l'océan Pacifique et de ses habitants que l'histoire a fait citoyens français. Premier tir d'expérimentation atomique, identifié par la suite comme particulièrement polluant, Aldébaran, est la première explosion nucléaire d'une suite de 46 tests aériens et 147 souterrains. Depuis, comme une chape de plomb, un lourd silence a fait suite au fracas de ces champignons atomiques qui ont généré de multiples conséquences dévastatrices au plan sanitaire, environnemental, économique et social, jusqu'à aujourd'hui ignorées, voire sciemment occultées. Alors ce que je viens de dire là, c'est un extrait de la commission d'enquête sur les conséquences des essais nucléaires de Polynésie française en 2006.
Donc de 1966 à 1996, la France a effectué sur ces deux atolls de Mururoa et Fangatofa, 193 essais nucléaires et 15 tirs de sécurité. Les tests de sécurité consistaient à laisser tomber les bombes au sol pour vérifier que le choc ne déclencherait pas la réaction nucléaire. Ces tests ont entraîné la dispersion de matériaux radioactifs et radiotoxiques. Certaines bombes avaient 120 fois la puissance de la bombe de Hiroshima. Les essais nucléaires en plein air ont eu lieu à moins de 400 km de petites îles habitées et sans vraiment protéger ni les militaires, ni les travailleurs polynésiens, ni les populations environnantes. Selon le CEA, les trois quarts de ces essais en plein air ont eu des retombées radioactives sur les îles les plus proches, comme Turea et l'archipel des Gambiers. Au moins 6 de ces essais ont dysfonctionné à cause d'erreurs de prévision météo, mettant en péril les populations.
Est-ce que tu peux nous parler de l'enquête qui est sortie en 2021 ?
Oui, donc en 2021, une enquête révélait qu'un essai avait touché l'île de Tahiti, et à l'époque, l'armée a gardé le silence. Le 17 juillet 1974, depuis l'atoll de Mururoa, la France s'apprête à procéder au 41e essai nucléaire atmosphérique en Polynésie, baptisé Centaure. Mais rien ne se passe comme prévu. L'essai est un échec du point de vue technique. Le champignon atomique s'élève moins haut que prévu, mais surtout il ne prend pas la direction prévue.
Les nuages devaient partir vers le nord, vers deux îles. Une où était basée la base avancée des essais nucléaires et une autre petite faiblement habitée. Rapidement, les militaires et le CEA se rendent compte que le nuage, porté par un épisode de pluie non prévu, va partir dans une autre direction. Il va aller tout droit sur Tahiti, à 1000 km de là, contaminant potentiellement 110 000 personnes. Grâce à l'analyse de documents déclassifiés en 2013, les journalistes démontrent que finalement le nuage est allé donc en ligne droite sur Tahiti, qu'il touchera 42 heures après l'explosion. Les personnes y sont contaminées de différentes manières, notamment par des pluies qui ont frappé Tahiti après l'essai, et donc l'ingestion de denrées qui ont été contaminées, comme le lait ou le fait de boire l'eau de pluie. Cette révélation permet de raconter très précisément le déroulement de cet accident clé de la campagne d'essai nucléaire en Polynésie. Elle a aidé à démontrer que les victimes ont été plus contaminées que ce que le CEA voulait bien admettre. En outre, l'armée connaissait le risque. Elle savait pendant quasi 42 heures que le nuage allait toucher Tahiti et n'a rien fait pour évacuer, rien fait pour mettre à l'abri les populations civiles. Les autorités locales et les populations civiles ne sont pas prévenues. On ne demande pas aux populations civiles de se mettre à l'abri ou de suspendre leur consommation d'eau et de lait qui fixent fortement les substances radioactives. D'ailleurs, cet essai secret pour la population n'est même pas évoqué dans la presse locale de l'époque. Deux hauts responsables du programme nucléaire français démissionnent dans la foulée.
Alors pour faire une petite pause, on va s'écouter un extrait d'Atomic Testing qui est composé par Harry Mystic et Burge King.
Passons à la Polynésie française maintenant, où hier matin à Papeete, suite à l'annonce de la reprise des essais nucléaires, de multiples manifestations ont tourné à l'émeute.
In Moruroa, in Fangataufa, all my family ever has to live in Polynesia, in Polynesia. This society ever has to live in Polynesia, in Polynesia. Topa iroto ite ati ate uira atomi. Thank you.
uiru teuti. Wa ama te natura, no reira, wa ma'i te nuna'a.
On est bien sûr Campus Grenoble dans la matinale décoloniale 90.8.
Alors, est-ce que sait-on des effets à long terme des radiations en Algérie et en Polynésie ?
Alors, ce qu'on peut dire au global, c'est qu'on n'a pas de données précises sur le nombre de personnes. Pour les personnels civils et militaires, c'est estimé à 150 000 personnes sur les 30 ans de la durée des essais, donc entre 1960 et 1996. Parce que les essais nucléaires, c'est beaucoup de travaux, de BTP, de manutention, et donc beaucoup d'ouvriers. 150 000 personnes, donc, mais ça n'inclut pas les populations qu'il faut bien évidemment rajouter à ce chiffre-là. Et on n'a pas du tout de nombre de personnes décédées du fait de ces essais, et on ne l'aura pas, parce que toute la difficulté pour établir ce chiffre, c'est que la radioactivité, en fait, ça agit comme un accélérateur pour un certain nombre de personnes qui ont des fragilités, et notamment pour les cancers. Et donc, pour ces conséquences, on va successivement parler de la Polynésie et de l'Algérie.
Toutes les dispositions sont prises, comme vous le savez, pour que cela n'ait aucun inconvénient d'aucune sorte pour les chères populations de la Polynésie.
Alors, ouais, est-ce que malgré ce que nous dit De Gaulle, tu peux nous donner quand même un peu des éléments ?
Pour les chères populations de la Polynésie, ouais. Alors la Polynésie, c'est un territoire qui est grand comme l'Europe, qui est composé de milliers d'îles, d'atolls. Donc faire un bilan des conséquences, c'est quand même difficile. Et en plus, pour ne pas aider, il y a eu une très longue période d'omerta, avec des archives qui ont été ouvertes très tardivement. Ce qu'on peut mesurer aujourd'hui, c'est que près de 170 000 habitants auraient été exposés à des radiations. Les explosions atmosphériques ont dispersé des substances radioactives, notamment de l'iode, qui sont donc susceptibles d'entraîner des cancers. D'après les recherches de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, dans les années 2000, on estimait que la Polynésie arrivait en tête du funeste classement du taux d'incidence du cancer de la thyroïde le plus élevé au monde. En Polynésie, les malades du cancer ont en moyenne 16 ans de moins que dans le reste de la France. L'environnement est évidemment contaminé. Mathilde a déjà parlé de l'eau de pluie, mais c'est toute la faune, toute la végétation qui sont contaminées. Les poissons, notamment, qui peuvent se déplacer sur des longues distances, peuvent passer dans des zones ultra contaminées, puis être pêchés et consommés plus loin. Et la structure aussi sociale de la société polynésienne, qui subissait déjà la colonisation, a également été mise à mal par ces essais nucléaires. Beaucoup d'hommes ont été embauchés sur les chantiers, ou aussi pour aller faire des prélèvements dans les zones contaminées, et des groupes d'habitantes ont été déplacés. Donc on peut dire effectivement que 30 ans d'essais nucléaires en Polynésie ont profondément impacté la société polynésienne.
Et qu'est-ce qu'on sait pour l'Algérie des essais ? Qu'est-ce que ça a donné ?
Alors la CRIRAD, l'association indépendante qui a fait un énorme travail de documentation sur le nucléaire, est allée constater qu'une partie de la contamination perdure à la surface du sol, et c'est sans compter tous les déchets radioactifs qui ont été enfouis volontairement sous le sable. Une vieille tactique qui ne marche jamais bien. Aucun bilan sanitaire sérieux n'a été tiré en Algérie. C'est sans doute lié aussi au fait que, je l'ai dit tout à l'heure, l'Algérie et la France ont signé un accord qui autorisait la poursuite des essais nucléaires. Et en plus, les relations ensuite ont été complexes entre l'Algérie et la France. Donc aucune étude sérieuse n'a été prise. Les essais ont eu lieu dans deux régions différentes, dans le désert du Sahara, qui ont donc pollué deux zones différentes. Et en fait, voilà ce qu'on peut dire, mais qui est valable aussi pour la Polynésie, c'est que de France, les militaires qui décident de ça ont toujours l'impression que c'est des déserts, mais un désert, c'est jamais complètement vide. Il y a toujours des populations qui habitent, qui se déplacent, et les pollutions nucléaires durent et se diffusent à long terme. En 2021, donc, l'historien Benjamin Stora a produit un rapport sur la colonisation française en Algérie, à la demande de Emmanuel Macron. Et ça se veut la somme un petit peu officielle de ce qu'on sait ou de ce qu'on souhaite savoir plutôt sur l'héritage colonial. Ce rapport n'aborde la question des déchets laissés par la France sur place sans du tout. Il ne parle pas du tout des conséquences sanitaires pour les populations du Sahara, comme si la gestion en revenait uniquement aux services de santé algériens. Et dans ce contexte, donc, c'est difficile de donner des chiffres sur la contamination nucléaire. Dans une proposition de loi, des députés écologistes ont estimé à 400 000 le nombre de personnes directement exposées aux radiations liées aux essais nucléaires français. Et pour l'Algérie, contrairement à la Polynésie où les choses se sont faites tardivement, les archives n'ont pas été ouvertes du tout. La France n'a pas ouvert ses archives. Voilà ce qu'on peut en dire pour le moment.
Eh ben, je vais vous parler maintenant des luttes et des résistances qui ont lieu au moment des essais nucléaires au Sahara et en Polynésie, parce qu'il y a eu plein de réactions. Et elles ont été portées en particulier par les pays nouvellement indépendants comme le Ghana pendant les essais au Sahara ou les îles Fidji pendant les essais en Polynésie française. Et ces pays nouvellement indépendants, ils dénonçaient l'impérialisme nucléaire. Alors, côté français, il y a des chercheurs et des scientifiques qui s'opposent dès la fin de la Seconde Guerre mondiale à l'usage militaire du nucléaire et aux recherches pour la fabrication de bombes atomiques, comme on l'a entendu au début de l'émission. En 1950, il y a l'appel de Stockholm, qui est une pétition qui est lancée en pleine guerre froide, contre l'arme nucléaire. Les militants et militantes contre l'arme atomique, qui sont souvent vus comme des alliés de Moscou à cette époque de guerre froide, et d'autant plus que beaucoup d'antimilitaristes sont communistes. L'appel de Stockholm, donc cette pétition, elle est issue du Mouvement de la Paix, qui est une organisation pacifiste qui a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale par des courants communistes, par des courants chrétiens ou d'autres libres penseurs de la résistance. Et le mouvement pour la paix, elle s'implante dans les universités et les syndicats en montant un comité contre la force de frappe. Et ce comité, il réalise des manifestations entre 58 et 66. Et ces militants et militantes font du porte-à-porte pour faire signer des pétitions contre les essais nucléaires français à chaque nouvelle campagne de tir. Mais cette opposition en métropole, elle a bien du mal à rejoindre la contestation anticoloniale en Afrique parce qu'elle refuse de faire le lien entre le fait nucléaire et le fait colonial. Au Ghana, le président panafricaniste Kwame Nkrumah accueille des militants et des militantes étrangers qui préparent des actions contre les essais à Reagan en 1959. Et en Tunisie, 15 jours avant le premier essai, une manifestation réunit près de 100 000 personnes à Tunis en présence de représentants de pays africains. Et entre 1959 et 1960, il y a plusieurs manifestations contre les essais qui sont organisées à Tunis, à Tripoli, à Rabat, en Haute-Volta, qui est l'actuel Burkina Faso, et au Ghana. En Algérie, le FLN, par la voix de Mohamed Diazid, ministre du gouvernement provisoire de la République algérienne, dénonce le tir, rappelle les remontrances de l'ONU et dénonce un acte d'intimidation contre le mouvement de libération africain.
Le gouvernement français n'a tenu aucun compte du mouvement de protestation contre ces projets qui a englobé tous les peuples, soit d'Afrique ou d'Asie, d'Europe ou d'Amérique. Son crime du 13 février porte la marque du cynisme impérialiste.
Alors le 13 février, on l'a vu, c'est le premier essai nucléaire français Gerboise bleue. La Sahara Team Protest, STP, est une organisation qui tente de réaliser une opération de désobéissance civile dans le Sahara en 59 en réunissant des acteurs de diverses nationalités et idéologies. Des activistes anglais de la Direct Action Committee, c'est une organisation pacifiste contre les armes nucléaires. Et du coup, ces activistes, ils débutent une campagne contre les essais à Accra en 1959. Cette organisation, elle forme une équipe un peu cosmopolite, donc c'est la fameuse Sahara Team Protest. Elle est formée par des pacifistes britanniques, par des panafricanistes ghanéens et par des militants pour les droits civiques venus des États-Unis. Cette campagne, elle a très peu d'écho chez les pacifistes français et françaises qui ne veulent pas lier le combat, comme je l'ai dit tout à l'heure, contre la bombe avec celui contre le colonialisme. La Sahara Team Protest, elle projette donc de partir d'Accra, de passer la frontière de l'Afrique occidentale française, puis de traverser le Sahara. Et ils organisent un convoi de camions, puis dans un deuxième temps, ils tentent de franchir la frontière à pied, mais ils sont constamment refoulés par l'armée française.
Et maintenant, on va voir comment ça s'est passé en Polynésie.
Alors, en Polynésie, le député John Teariki est une des voix connues de la protestation. Il siège à l'Assemblée nationale de 61 à 67 et il proteste dans l'hémicycle contre l'installation d'un site d'essai nucléaire en Polynésie et du coup sa protestation c'est dès 1963. Et il fait notamment un exposé scientifique sur les dangers des retombées radioactives, rappelant l'accident de mars 54 pendant un essai aérien américain aux îles Marshall, et il demande un référendum populaire sur l'implantation des sites. Il dénonce également en 65, dans un texte écrit avec d'autres personnes, la recolonisation militaire de la Polynésie française et la soumission à une propagande officielle, l'occupation militaire et la domination économique du centre d'expérimentation du Pacifique. Certains pays du Pacifique se mobilisent contre les essais nucléaires en Polynésie française. En Australie, les trade unions, ce sont des gros réseaux de syndicats très influents à l'époque, et ils mènent des boycotts des produits français dès 1963. Les Fidji, après leur indépendance en 70, deviennent le centre des réseaux anticolonialistes et antinucléaires dans la région. Les mobilisations contre le centre d'expérimentation du Pacifique, à partir des années 70, vont s'ancrer dans un mouvement pour un Pacifique dénucléarisé et indépendant. Et donc, beaucoup des protestations en Polynésie française, ça va se faire avec des navires qui vont venir un peu perturber la zone interdite. Vers l'atoll de Mururoa. Et du coup, ça c'est dès 1964 qu'il y a un premier navire contestataire qui part en direction de Mururoa. C'est celui du Committee Against Atomic Testing. C'est une organisation australienne. Elle met un peu 2 ans à concrétiser l'action, mais elle est obligée de s'arrêter aux îles Cook faute d'aide logistique. À partir de 1973, l'hostilité vis-à-vis des expériences nucléaires françaises s'affirme dans le Pacifique Sud et en mai, les gouvernements australiens, fidjiens et néo-zélandais déposent une requête commune devant la Cour internationale de justice de La Haye en demandant l'arrêt des essais français dans le Pacifique. En mars 1973, les navires Free, le Vega et le Spirit of Peace partent vers Mururoa. Les membres du bataillon de la paix qui sont présents sur le Free sont stoppés par l'armée française en juillet 1973 après 7 semaines passées dans la zone des essais. Et le Vega est stoppé en août. En 1974, c'est la fin des essais aériens qui est annoncée, mais à partir de 1974 et jusqu'en 1996, on aura donc des essais souterrains. Donc la protestation continue. Et là, je vais vous parler de l'affaire du Rainbow Warrior, qui est un peu une affaire qui a été connue, en tout cas à l'époque, qui a fait un peu grand fracas, justement, parce que donc, c'est l'association Greenpeace qui est présente dans la contestation des essais nucléaires français dans le Pacifique, et notamment avec le navire Vega, dont on a parlé. Et tout au long des années 80, les actions directes de Greenpeace à Mururoa inquiètent les autorités françaises. Et en 82, le Vega retourne vers l'atoll et l'équipage est de nouveau arraisonné par les militaires. Et puis les militaires, à ce moment-là, sont assez inquiets de trouver à son bord un indépendantiste polynésien. Donc la peur, c'est surtout cette jonction entre les différents courants de lutte. Et il y a une prochaine action à ce moment-là qui est prévue à Mururoa à l'été 1985 sur un autre navire de Greenpeace, le Rainbow Warrior. Mais le navire est coulé par la DGSE, qui sont les services secrets français. Il est coulé à Auckland, en Nouvelle-Zélande, le 10 juillet 1985, et il fait 1 mort parmi les membres de Greenpeace. Alors ça a été un scandale d'État, hein, parce que donc la police de Nouvelle-Zélande a arrêté les agents de la DGSE. Et alors pourquoi ? On s'est demandé pourquoi la France a coulé le Rainbow Warrior. C'était pas seulement par rapport à Greenpeace, c'est en fait que l'action qui devait être organisée en 1985 était une coalition entre les militantes de Greenpeace et des militants et militantes polynésiennes. Et ceux-ci devaient embarquer sur le Rainbow Warrior, entrer ensuite dans la zone d'exclusion militaire en Va'a, qui sont des pirogues polynésiennes, et le symbole aurait été très fort, du coup, d'arriver sur cette zone d'exclusion en pirogue pour empêcher un essai nucléaire. Et donc, le ministre de Défense, Charles Hernu, le ministre de Défense à cette époque, ayant mis François Mitterrand dans la confidence, a préféré que ce moment n'existe pas. Et du coup, le scandale éclate effectivement après l'arrestation des deux agents de la DGSE par les enquêteurs néo-zélandais. Et pour finir sur cette lutte sur les navires, eh ben, en 1995, année de la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique décidée par Chirac, 32 voiliers de nationalités différentes ont encore navigué tout autour de Mururoa. Et cette opération, combinée avec de grandes manifestations dans le monde entier, va faire enfin plier l'État français.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe aux vermicelles. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, un tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Quand on, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement.
On est bien sur Radio Campus Grenoble 90.8 dans la matinale des coloniales et on écoutait la Java des bombes atomiques de Boris Vian.
Alors si les essais se sont arrêtés, comme on vient de le dire dans la partie précédente, la bataille juridique, elle se poursuit pour faire reconnaître l'impact économique, environnemental, social et sanitaire des essais sur la population. Donc chaque 2 juillet en Polynésie, à Papeete, il y a des grandes manifestations d'organisées pour demander des réparations et commémorer le premier essai nucléaire qui a eu lieu en Polynésie. Mais en 2005, en France métropolitaine, les autorités de défense soutiennent encore que les essais sont propres. Donc l'Assemblée polynésienne, cette même année, là, en 2005, elle a décidé de mener son propre travail d'enquête et son rapport, il dénonce clairement une obstruction de l'État français, on en a déjà parlé, hein, mais donc à différents niveaux. Déjà sur le mensonge, sur le fait que ces essais seraient propres et qu'il n'y aurait pas de retombées radioactives. Et en plus, l'État français il tente de faire annuler les travaux de la commission polynésienne. Il refuse toutes les demandes d'informations. Il va même jusqu'à intervenir directement dans le débat pour essayer de discréditer les travaux de la commission ou faire pression sur la municipalité et la population pour qu'ils fassent disparaître les traces compromettantes de l'époque des essais atmosphériques. Malgré ça, en 2010, les mouvements de lutte obtiennent la loi Morin, qui est une loi sur la reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, aussi bien dans le Sahara algérien que la Polynésie française. Mais bon, cette loi, elle ne va pas vraiment permettre d'indemniser beaucoup de victimes. D'autant plus qu'en 2018, le CIVEN, qui est le comité qui, d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, donc qui est chargé de faire appliquer la loi, en gros, il a rajouté un critère qui a été vivement critiqué, c'est celui d'avoir été exposé à une dose d'au moins 1 millisievert par an. Alors on comprend bien que prouver la dose reçue, c'est quand même un véritable casse-tête. Il y avait peu de gens qui se baladaient avec un instrument de mesure sur eux. En plus, ce seuil de 1 millisievert, il n'est pas scientifique ni sanitaire, comme l'expliquent bon nombre d'associations qui ont travaillé sur le sujet. Ça va pousser en octobre 2018 Oscar Temaru à faire une plainte pour crime contre l'humanité contre la France. Donc Oscar Temaru, c'est le président polynésien qui en est à l'origine et il déclare:
pour nous, les essais nucléaires français ne sont que le résultat direct d'une colonisation. Contrairement au discours français, nous n'avons pas accepté d'accueillir ces essais. Ils nous ont été imposés, avec la menace directe de l'établissement d'une gouvernance militaire si nous refusions.
Alors je ne l'ai pas précisé, mais c'est un leader indépendantiste, Oscar Temaru, et il veut demander des comptes à tous les présidents français depuis le début des essais nucléaires. Je vous propose maintenant d'écouter un extrait d'interview de l'autrice haïtienne Titawa Peyou, qui était en 2021 à propos de la réédition de son livre « Mutisme ». Elle répond à une question d'une journaliste de France Culture qui l'interroge sur son espoir de changement après l'apparition d'une enquête qui a fait grand bruit du Média Disclose et à la nouvelle proposition de loi visant à indemniser les victimes des essais nucléaires.
Alors je vais être franche, je vais parler pour une grande partie de la population. Ce sont des éléments qu'on connaissait déjà, le petit nuage en 75. Finalement, on a des nouveautés dans ce qui est peut-être technique, tangible, mais vous savez, on le prend comme une injustice parce que, enfin, depuis des années, on nous parle de dette nucléaire et on n'en voit pas la fin, quoi. La France métropolitaine nous invente des comités, etc., pour réparer les dégâts, mais non, c'est faux. Je pense qu'avant de parler d'indemnisation, il faudrait peut-être que l'État colonial avoue et enfin, et puis demande pardon. Et ça n'a jamais été fait. On nous dit souvent, et les politiques locaux le disent aussi, tournant la page nucléaire, non. Donc c'est pour ça que cette énième enquête, enfin, merci aux journalistes de Disclose, mais nous, ici, on reste un peu indifférents à la chose. On a eu tellement d'enquêtes aussi, on a cru que ça allait faire un tollé en France, et puis finalement, tout le monde s'en fout.
On voit qu'elle soulève ici un problème crucial, qui est le manque d'intérêt porté par l'État français et une grande partie de la population sur le sort des victimes de ces essais. En 2021, Macron a fini par reconnaître en Polynésie la dette de la France vis-à-vis du peuple polynésien, mais il n'y a toujours pas eu de demande officielle de pardon. En Algérie, comme le disait Joseph tout à l'heure, les choses n'avancent pas plus vite. L'État français, il est vivement critiqué. Là, il y a eu le 65e anniversaire des premiers essais. Et ils demandent toujours les archives complètes pour pouvoir étudier justement eux-mêmes les zones contaminées, les radiations, les déchets nucléaires. Et puis ils demandent un dispositif d'indemnisation qui ne soit pas au cas par cas, mais qui soit des réparations aussi plus globales. Cette année, enfin, en janvier 2026, l'Assemblée nationale a voté un nouveau texte qui doit faire sauter le critère de 1 millisievert dont je parlais tout à l'heure, mais le texte n'est pas encore passé devant le Sénat. Donc ça, cette réforme, ça devrait multiplier le nombre de personnes reconnues comme victimes, parce que jusqu'ici, on a eu un peu plus de 700 personnes qui ont été indemnisées par la loi Morin. Et il y a presque 700 dossiers qui ont été refusés par ce seuil. Mais comme parlait Joseph tout à l'heure, les chiffres, ils sont énormes. On est à plus de 10 000 personnes qui vont pouvoir être concernées. Donc voilà. En plus, la loi de 2026, elle propose que l'indemnisation, elle aille aussi aux victimes indirectes. Elle modifie les délais de prescription. Elle envisage des réparations collectives, notamment la prise en compte des dépenses de santé qui sont jusqu'ici toujours financées, par exemple en Polynésie, par la caisse polynésienne. Voilà. Maintenant, j'oubliais de lancer ma camarade. On va passer maintenant à notre portrait d'ordure par notre spécialiste des déchets, Mathilde.
Donc aujourd'hui, on va parler de Pierre Guilloma. Cet homme s'impose comme un homme clé incarnant le lien entre le pétrole, le nucléaire et l'armement. De 51 à 58, administrateur du CEA, il a supervisé la mise au point de la bombe atomique française. de 58 à 60, ministre des armées en pleine guerre d'Algérie. Créateur d'Elf, il a dirigé le groupe de 66 à 77. Il n'a eu de cesse de préserver l'empire colonial français à cause du pétrole. C'est un homme du secret, un homme de clan qui avait la nostalgie de l'empire. Sans avoir jamais eu de mandat électif, Pierre Guillaumat pesa ainsi sur les plus importants leviers de la vie française pendant plus de 40 ans. Grand serviteur de l'État, il est resté après-guerre un grand serviteur du gaullisme. Son père fut général de l'armée française et lui, élève de l'école polytechnique puis de l'école nationale supérieure des mines. C'est après avoir dirigé les mines en Indochine puis en Tunisie qu'il a rejoint le bureau central de renseignement d'action d'Alger en 1943, le BCRA. C'est dans ce service qu'il rencontra Jacques Foccart. Donc, en 1951, il est nommé administrateur général du CEA et il y restera jusqu'en 1958. Il est alors l'homme de l'atome en France. Sa nomination à la tête du CEA sonne la fin du règne des pacifistes, génération représentée par Frédéric Joliot-Curie, membre du PCF dont on a parlé tout à l'heure. Le CEA est créé en date du 18 octobre 1945 par ordonnance de De Gaulle, et ce, 2 mois après les bombes lancées sur Hiroshima et sur Nagasaki. Véritable état dans l'état, cet organisme a la particularité de ne dépendre d'aucun ministère, de ne rendre des comptes qu'au président du Conseil et de disposer d'un budget faramineux. Sa mission, créer une industrie atomique en France et surtout mettre au point la force de frappe qui permettra à la France de tenir son rang dans le club des grandes puissances. Dès 1951, Pierre Guillaumat fomente la politique militaire discrète du CEA. Il a invité des militaires à venir y travailler, en ayant en tête d'être en capacité un jour de produire de l'uranium enrichi, nécessaire tant pour faire des bombes que pour faire de l'électricité. La décision de la France de se doter de la bombe A s'est faite lors d'une réunion interministérielle fin 1954 autour de Pierre Pendès France lors d'une réunion avec une vingtaine de personnes. Pierre Guillaumat raconte.
Mendès a dit « Moi, je suis plutôt pour. » Et les personnes qui voulaient la bombe, c'est-à-dire le général et moi, avons dit « Eh ben, puisqu'il a dit oui, on va commencer à faire le programme. »
Donc décision politique sans aucune décision parlementaire. Le programme militaire français est lancé clandestinement. Cela aboutira 5 ans plus tard, donc le 13 février 1960 à Gerboise-Bleue. La première bombe A française explose dans le Sahara algérien. Le général de Gaulle envoie alors un télégramme de félicitations à Pierre Guillaumat. En 1967, au démarrage de l'usine de Pierre Latte, qui fournit sa première livraison d'uranium enrichi nécessaire au programme civil et militaire. Sous Pierre Guillaumat, le CEA a eu des rapports avec Israël. Il confiera « La bombe israélienne, la bombe française, c'est intimement lié. » Pour Pierre Guillaumat, l'arrière-pensée de cette coopération avec Israël était de recueillir des informations sur les procédés atomiques américains. Ainsi, en octobre 1956, la France vend à Israël des installations d'où sortiront les premières bombes atomiques israéliennes. En juin 1958, le général de Gaulle le nomme ministre des armées. À ce poste jusqu'en 1960, il soutient constamment la mise en place des dispositifs opérationnels de protection, principal outil de la torture pendant la guerre d'Algérie. Il supervise également les activités pétrolières et nucléaires françaises au Sahara. Pierre Guillaumat devient ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de l'énergie atomique, de la recherche et de la fonction publique de 1960 à 1962. De Gaulle poursuit l'objectif d'indépendance entre guillemets énergétique pour la France, priorité nationale, et crée un outil pétrolier, Elf Aquitaine, et fondé en 1967 avec à sa tête Pierre Guillaumat, qui y restera jusqu'en 1977. Énorme entreprise pétrolière qui confortera la soi-disant indépendance énergétique française et assurera également les bases solides du financement occulte du parti gaulliste. On peut renvoyer vers le procès Elf sur ce sujet. Elf permit aussi à l'ancien empire colonial de garder la main sur les États africains après la décolonisation officielle. Guillaumat est alors l'homme du pétrole en France. À travers ses activités africaines et notamment la direction d'Elf, et dans l'atome militaire, son goût du secret et des opérations compliquées s'est épanoui. Pierre Guillaumat sera également PDG d'EDF de 64 à 65, entreprise qu'il associera au programme du CEA.
Alors, on arrive à la fin de cette émission. Et il est temps parce qu'on est en train d'exploser le timing et il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire. Mais on s'en fiche, on va quand même déborder. Voilà, aujourd'hui, on introduit une nouvelle rubrique, une petite rubrique très courte pour cette fois. Donc, une rubrique sur les brèves pour vous dire que Vincent Bolloré, dont on avait parlé dans une ancienne émission il y a un an quasiment, et deux de ses anciens cadres du groupe Bolloré, Gilles Alix et Jean-Philippe Dorante, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des faits de corruption liés à l'attribution de la concession du port de Lomé au Togo. Un procès devrait se tenir en décembre 2026. Enfin.
Affaire à suivre, ouais. Et pour notre agenda local autour de Grenoble, alors pour la matinale décoloniale, pour commencer, la prochaine émission sera le 24 avril et on parlera de l'opération Bangui.
Demain, samedi 28 mars à 14h, départ de la MC2 pour une manifestation pour la Palestine à l'occasion de la Journée de la Terre.
Et le 4 avril à 19h30, au lieu, c'est le nom du lieu, au 17 rue Abbé Grégoire vers Saint-Bruno, il y aura une soirée sur la situation au Soudan, organisée par le collectif d'accueil et anti-frontières.
Eh bien, merci beaucoup, on vous dit à bientôt.
Merci, salut.
C'était la matinale décoloniale.
Retrouvez-nous en podcast
sur campusgrenoble.org.